et bonjour. Avant de démarrer cet épisode, je voulais vous partager quelques messages et informations importants. Le premier, c'est merci. Merci, je le répète souvent, pour l'oreille qui écoute. Je ne sais pas si vous êtes dans le métro, dans votre lit ou en train de cuisiner, mais peu importe, merci. La seconde chose que je voulais dire, c'est que si vous me suivez sur Instagram ou que vous avez écouté certains épisodes précédents, vous savez que j'ai quitté mon emploi pour me lancer à mon compte. Non pas par opposition au monde salarié, hein, mais plutôt par besoin viscéral d'oser réaliser ce qui était devenu une évidence, et plus précisément deux activités, avec pour fil rouge les mots qui racontent des histoires et qui sèment des idées et impacteront au moins une personne, j'espère, d'une part en tant que consultante en communication et stratégie de contenu et rédactrice SEO, du coup mention spéciale pour les sujets autour de la santé, de la psychologie, de la nutrition et de la sexualité. Et ensuite, les mots pour aider d'autres personnes à rayonner par des suivis personnalisés réunissant mes connaissances en psychologie et en trauma, le tout infusé par une approche globale mêlant énergétique, tantra, polarité féminine et masculine, blocage émotionnel et outils somatiques sur lesquels je me forme depuis quelques temps. Et en vue de cette activité-là, j'ai créé un compte Instagram dédié et un nouveau podcast, Les mots, c'est bien beau, aux côtés de Pierre Kessial. Et je serai infiniment reconnaissante si vous prenez 2 minutes de votre temps pour répondre à un court sondage qui m'aidera justement à m'aligner aux besoins et challenges d'un maximum de personnes et qui vous concerne peut-être dans votre vie personnelle pour proposer justement des accompagnements réellement efficaces. Donc vous avez les liens de l'autre compte Instagram et du sondage dans la description de l'émission. Donc merci infiniment si vous prenez ces 2 petites minutes pour y répondre. Et pour terminer ce message, j'aimerais juste vous dire une phrase qui réunit un peu toute l'idée et tout ce qui m'anime. Raconter une histoire, c'est surtout raconter celle de quelqu'un qui a besoin de l'entendre et qui sera galvanisé par l'énergie perçue à travers ces mots-là. Voilà, je crois que c'est un bon résumé du fil rouge de ce vers quoi je vais et ce qui m'anime. C'est tout pour moi et du coup, bonne écoute.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour et bienvenue sur Passage et Parle Fort, le podcast pour oser, se changer, ne pas se conformer, se cultiver, rire, parfois pleurer, débattre de nombreux sujets. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé de prendre la parole et de parler fort de sujets qui nous touchent tous et toutes. Je vous retrouve aujourd'hui en compagnie de Sandrine Rouget, que j'avais déjà reçue pour un épisode sur la perversion narcissique au sein du couple, pour ceux qui se rappellent. Pour cette fois-ci, nous aborderons différents sujets, tous liés au domaine de la psychologie. Des sujets qui font régulièrement la une des magazines santé, des revues de la petite enfance ou des publications sur les réseaux sociaux. Ce sont des termes très en vogue, parfois mal cernés, mal interprétés. Et au milieu de tout cela, des personnes perdues, ne sachant pas vraiment vers qui se tourner pour poser un diagnostic, ni même si un diagnostic est vraiment nécessaire. Souvent des personnes qui se sentent différentes, sans pour autant souffrir d'une pathologie avérée ou visible. Alors je vais vous dire les termes, hein, c'est hypersensible, haut potentiel intellectuel, haut potentiel émotionnel, TDAH, autisme. Voilà, le cadre est posé. Mais alors, la question c'est, quels sont les liens qui existent entre ces différentes manières d'être au monde? Comment est-ce qu'on évolue dans une société quand on pense, disons, différemment? Quand on ressent les choses de manière décuplée, plus intense, plus tout. Et quid des relations aux autres, de la question du haut potentiel et du couple, de la question de la communication. Voilà, c'est un sujet assez vaste, qui fait l'objet déjà de beaucoup, beaucoup d'articles. Et je trouvais ça intéressant de pouvoir mettre à plat toutes ces notions en compagnie de quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine. Donc bonjour Sandrine, je suis vraiment ravie de te retrouver pour un nouvel épisode. Donc voilà, pour ceux et celles qui ne l'auraient pas écouté, on avait fait un épisode sur la perversion narcissique au sein du couple qui était hyper intéressant, même si vous avez eu la chance de ne pas croiser ce genre de spécimen. Et donc cet épisode faisait suite à la parution de son livre « Emprise et perversion narcissique dans le couple » qui est paru en 2021, qui est hyper intéressant et que je vous recommande. Donc encore une fois, bienvenue Sandrine. Est-ce que tu peux nous rappeler qui tu es, d'où tu viens et ce que tu fais dans la vie ?
Bonjour Marie, je suis ravie de vous retrouver, de te retrouver et puis de retrouver tes auditeurs pour ce nouveau podcast. Donc moi je suis Sandrine Rouget, je suis auteure spécialisée sur la neuroatypie dans son ensemble. Je suis aussi conférencière et comportementaliste. Donc moi au départ j'ai un parcours avec un diplôme d'école de commerce. J'ai commencé par travailler pendant 15 ans pour des grands groupes et des institutions comme consultante en conduite du changement, puis directrice de communication et puis assistante à maîtrise d'usage énergétique dans le bâtiment. Sur ce dernier poste, j'ai développé un système de profilage qui permettait d'identifier des profils de comportement énergétique afin de les accompagner plus efficacement sur leurs éco-gestes. En 2015, au moment où j'occupais ce poste-là, je découvre mon haut potentiel par l'intermédiaire de mes enfants, comme c'est souvent le cas quand c'est tardif. Alors là, je m'interroge sur cette notion, sur comment j'ai pu passer à côté de ces informations, et je me mets à explorer le sujet de façon extrêmement intense, en l'occurrence le haut potentiel, mais aussi l'hypersensibilité, les neurosciences, l'anthropologie, l'hypersensorialité, la gestion des émotions, etc. Je finis par en faire une synthèse que j'auto-publie en 2019 sous le nom « Un caméléon trop sensible » qui parle du quotidien d'une femme au potentiel, dans ce qu'elle peut vivre dans ses relations avec les autres, au travail, comment elle a pu expérimenter son école ou sa parentalité. Donc ce premier livre rencontre rapidement son public et m'encourage à en écrire d'autres. Donc suit l'année suivante en 2020 La Caméléone, qui est la version au féminin mais plus généralisée. En 2021, emprise et perversion narcissique au sein du couple, parce que je réalise, plus je rencontre des personnes atypiques, plus elles sont nombreuses à me parler de relations toxiques et ça m'interpelle. Et l'année dernière, en décembre, je sors Nuancier de caméléon, qui est une synthèse de l'ensemble des principaux profils neuroatypiques, comme tu les as évoqués, à savoir l'hypersensibilité, le haut potentiel, le syndrome d'Asperger et l'autisme en général, le TDAH ou des troubles 10, et comment ces différentes particularités peuvent éventuellement s'imbriquer entre elles. En parallèle, à la demande de mes lecteurs, je mets à profit mes recherches pour développer un test à destination de profils atypiques qui me disent voilà, j'ai fait mon test VAICE, j'ai un chiffre de QI et en fait je fais quoi de tout ça maintenant. C'est comme ça que j'en viens à faire un bilan qui mélange le tempérament, les éventuels traits neuroatypiques, mais aussi le parcours de vie, la façon de penser, la façon de ressentir et ce que ça vient de dire de ces interactions. Et aujourd'hui, du coup, c'est mon activité principale. Donc, je partage mon temps entre écriture de livres, conférences et ce genre d'accompagnement.
D'accord. Hyper intéressant. Je connais le test de VAICE. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un test qui est effectué par un ou une psychologue ou toute personne qui a les compétences pour le faire passer, je suppose, et qui permet d'établir un score par justement le QI et d'autres informations sur la manière que l'on a de penser, le fonctionnement que l'on a et nos points forts, nos faiblesses, et qui permet notamment de diagnostiquer, de poser le diagnostic du haut potentiel, si je ne me trompe pas.
Oui, en fait, alors quand les gens sont extrêmement pointilleux, ils font la différence entre la détection du haut potentiel, c'est-à-dire c'est pas un diagnostic parce que c'est pas une maladie, donc c'est une détection. Mmh. Voilà, et les psychologues qui sont spécialisés de ce sujet vont venir regarder à travers des tests psychométriques ta vitesse de traitement de pensée, ta façon de te repérer dans l'espace et ton niveau de logique, ta mémoire de travail et ton niveau de compréhension verbale. Voilà. Et comme le calcul qui est fait est un calcul statistique en fonction de ces quatre items-là, à la fin, tu obtiens un chiffre de QI, sachant qu'au départ, ce test qui est aujourd'hui effectivement le test qui est officiel, si tu veux, pour être reconnu comme haut potentiel, n'est pas du tout un test qui avait été imaginé, envisagé pour identifier le haut potentiel. Mais pour autant, c'est celui qui permet d'avoir la meilleure idée possible de quel est ton niveau de QI. Malheureusement, il ne prend pas en compte le stress que tu peux avoir par rapport au chronomètre, au regard qui est posé sur toi, le fait que tu peux éventuellement perdre tes moyens ou que, en raison de ton histoire de vie ou ton rapport à l'école, tu as pu saboter complètement la culture générale ou avoir un trouble caché de dyscalculie et être pas très fort en mathématiques. Voilà, donc ils peuvent l'identifier, mais du coup, ils arrivent à un résultat qui est non probant.
D'accord, ok, très clair. Oui, moi j'avais passé le test de Weiss et c'est vrai que c'est assez impressionnant à faire. Ouais. Tu as beaucoup de retenir des chiffres, des suites de chiffres, des calculs, des formes. C'était hyper challengeant. Moi j'avais adoré le faire parce que c'était pas indispensable. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de le faire? Je sais pas. Moi je me posais la question depuis très longtemps de savoir comment je fonctionnais. J'avais envie de savoir plus, enfin de comprendre un peu mieux, pas tant le chiffre final, mais plus comment je traite les infos, en fait.
C'est ça.
Et du coup, c'était hyper intéressant. Donc, ça a confirmé ce que je pensais. Après, comme tu dis, qu'est-ce qu'on en fait? J'en ai rien fait du tout. Je suis restée avec mes informations et mes papiers. Et puis, je dis, d'accord, ok. Bien, au potentiel, qu'est-ce que ça apporte? C'est surtout qu'est-ce que ça empêche de faire souvent? Qu'est-ce que ça me bloque dans la vie quotidienne parfois? Voilà. Mais du coup, donc là, comme tu l'as dit, tu as sorti un livre donc en décembre dernier qui est disponible en édition limitée, je crois, et en e-book.
C'est ça. Alors, c'est ça, ouais, il est disponible en édition. En fait, j'ai fait le choix d'une édition limitée parce que je suis très impliquée au niveau environnemental et qu'il est entièrement éco-conçu, éco-imprimé, etc. Et pour les personnes qui préfèrent la version e-book, elle sort la semaine prochaine.
Ah bah ok, du coup elle sera déjà sortie quand l'épisode sortira.
Ouais. Mais, tu pourras couper alors ça.
je mettrai les infos pour retrouver le lien du e-book. Donc du coup, ce e-book traite de l'hypersensibilité, le haut potentiel, l'autisme, le TDAH et les imbrications qu'il y a un petit peu entre ces différentes manières d'être au monde qui sont parfois un petit peu mélangées dans la tête des gens, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on ne voit peut-être pas trop la différence entre hypersensible et haut potentiel.
Oui.
Et aussi, on se rend compte que parfois, il y a des similitudes, en fait, dans ces différentes façons d'être.
Oui.
Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu pourquoi tu as eu envie d'écrire sur ça et comment tu as procédé un peu?
Oui, exactement pour ce que tu viens d'évoquer. C'est-à-dire que ces dernières années, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui se reconnaissaient volontiers hypersensibles. Alors que, à leur contact, je me rendais compte qu'elles présentaient quand même, elles semblaient en tout cas présenter des traits qui relevaient plus du haut potentiel. Donc, du coup, j'ai voulu comprendre quelle était la différence concrète entre l'hypersensibilité et le haut potentiel. Et à dire vrai, ça m'a demandé beaucoup, beaucoup d'investigation. De comprendre cette différence particulière parce que les deux notions se ressemblent énormément dès que tu vas consulter ou écouter un podcast, une conférence ou quoi. De fil en aiguille, j'ai eu envie de mener le même travail d'investigation sur les traits autistiques parce que en fonction de ton histoire de vie avec un haut potentiel et certains événements traumatisants, tu peux présenter des traits qui rappellent en fait des traits autistiques. Donc ça m'a vraiment interpellée cette notion-là. Et puis après, je me suis aussi demandé pourquoi certaines personnes passaient encore sous les radars aujourd'hui, alors que ces thèmes étaient de plus en plus vulgarisés. Voilà, et c'est comme ça que je suis arrivée sur le sujet de la double exception, savoir des profils qui présentent plusieurs particularités, neuroparticularités à la fois. Et de fil en aiguille, je suis arrivée aussi sur la notion de très haut potentiel avec l'aide de Fabrice Michaud, qui pour moi est celui qui vraiment maîtrise la totalité de ces sujets et notamment le très haut potentiel. Et à la fin, eh ben, j'ai voulu en fait mettre en regard pour moi, envisager tout ça comme une étiquette, ça ne m'intéresse pas. C'est-à-dire que ce n'est pas une fin en soi d'être une de ces neuroparticularités ou plusieurs. Au final, chacun d'entre nous reste profondément singulier, qu'on soit concerné par ça ou pas. Et donc, du coup, je suis allée regarder quels étaient les impacts de ton tempérament, de ton contexte de vie, notamment dans l'enfance, de leur rapport que tu pouvais avoir développé avec les émotions et l'intelligence, et comment ça venait s'imbriquer avec une ou plusieurs de ces particularités pour expliquer qui tu étais en termes de personnalité, ta façon d'être au monde finalement. Voilà.
Très clair. Oui, on va aller sur le terrain concret. Comment tu pourrais définir l'hypersensibilité, le haut potentiel? Et en fait, c'est quoi les différences? Parce que c'est vrai que ça peut paraître assez flou comme...
Oui. Ouais, donc c'était pas facile hein, d'arriver à cette différence-là. Mais en gros, si tu veux, ces deux neuroparticularités sont d'origine neurologique au départ et donc d'origine génétique. C'est-à-dire que les personnes qui sont concernées présentent toutes une anatomie cérébrale particulière, avec notamment plus de connexions entre certaines aires cérébrales. Mais comme on est grandi avec son cerveau, on ne se rend pas forcément compte que son fonctionnement est différent de la norme. Donc ça, c'est vrai pour tous ces profils-là. Après, si on en vient à l'hypersensibilité plus particulièrement, telle qu'elle est entendue par la psychologue Hélène Aron, l'hypersensibilité, c'est d'abord une exacerbation des cinq sens. Et en parallèle, une hyper-émotivité qui est vraiment très accrue et bien plus importante que la majorité des gens. Donc en gros, les hypersensibles sont des personnes qui vivent les événements intensément, qui ont aussi une forte empathie, voire une sympathie, c'est-à-dire qu'elles sont de vraies éponges émotionnelles et elles s'approprient presque les difficultés émotionnelles ou la joie. C'est pas qu'elles s'approprient, c'est qu'elles partagent, si tu veux. Elles sont dans le même état symbiotique que leur interlocuteur, qu'elles le connaissent ou pas d'ailleurs. Et ça donne aussi du coup des personnes qui ont une grande curiosité au monde et une bonne créativité. Et leur plus grand don, à mon sens, c'est qu'elles ont un instinct hors norme, notamment quand elles sont bien connectées cœur-corps-mental. Ça, c'est l'hypersensibilité. La différence avec le haut potentiel, c'est que les hauts potentiels ont au minimum le sens visuel qui est exacerbé, mais pas forcément les autres sens. Donc ce sont des grands observateurs qui captent beaucoup de données par ce biais-là, mais aussi par toutes les informations qu'ils vont pouvoir collecter au niveau de l'information et de tout ce qui va les happer du fait de leur curiosité. Et la particularité, c'est qu'ils vont ensuite traiter l'ensemble de ces données de manière ultra rapide, en privilégiant soit un mode plutôt séquentiel ou plus arborescent selon les profils, pour arriver à leur conclusion. C'est ce qui fait qu'ils ont ce détecteur d'incohérence permanent et donc du coup une bonne capacité d'audit des situations. Mais en contrepartie, c'est aussi ce qui fait qu'ils ont l'impression de penser sur tout et tout le temps sans avoir le bouton off mental. Voilà. Donc ça, c'est la définition pour le haut potentiel. Et du coup, la différence fondamentale entre les deux profils, c'est qu'un hypersensible va vivre et ressentir les choses intensément pour ce qu'elles sont au moment même où ils expérimentent un événement ou une interaction. Alors que le haut potentiel va immédiatement mettre la situation ou l'émotion première vécue en lien avec sa banque de données mentales interne pour analyser l'ensemble. Qui est en face de lui, qu'est-ce qu'elle ressent, enfin qui ou qu'est-ce que la personne ressent, quelle est son histoire, que s'est-il passé dans des situations similaires avec cette personne-là ou avec d'autres personnes. Et ce traitement-là mental va engendrer de nouvelles émotions qui prennent la place de l'émotion initiale. C'est la raison pour laquelle les profils au potentiel ont plutôt tendance à être facilement dans le passé ou dans le futur et plus de mal à s'ancrer dans l'instant présent. Et à mon sens, C'est ça la différence fondamentale entre un hypersensible et un haut potentiel. Voilà. Mais pour autant, on peut aussi être les deux. Et donc ça, ça donne des profils encore plus particuliers.
Ah oui, ouais, parce que c'était ce que j'étais en train de me dire, parce que en t'écoutant, je me reconnaissais dans les deux cas. Je me reconnaissais vraiment dans le côté hyper curieux et le côté empathique. Ça, c'est un truc, ça peut faire défaut parce que il y a ce côté-là aussi où tu sais pas, tu penses que les gens sont gentils de cette nature, tu vois. Et du coup, tu as ce côté un peu pas naïf, mais.
Barba oui, papa. Moi, j'appelle ça le côté barba papa, tu vois.
C'est ça, c'est les gens, tu te dis, il me veut pas de mal. Sauf que parfois, même si la personne te veut pas de mal, ses intentions sont pas forcément neutres. Juste dans la bienveillance. Et du coup, ça peut amener à des quiproquos parce que toi, tu penses que la personne, elle est juste en mode sympa avec toi. En fait, elle a d'autres idées et toi, tu captes pas. Et du coup, tu es un peu open parce que du coup, tu es gentil avec tout le monde parce que tu vois. Voilà, t'es... Et hyper intéressant. Et du coup, on parle aussi, parce que là, tu nous as vraiment bien défini comment on reconnaît un hypersensible, un haut potentiel. Et on parle aussi de haut potentiel intellectuel et haut potentiel émotionnel. Et là, du coup, c'est... encore un step au-dessus, c'est quoi la différence?
Alors là, en fait, c'est quand on évoque ces deux éléments-là, il y a plein de postures différentes qui sont en jeu. Et moi, en fait, depuis que j'écris sur ces sujets, je me suis rendu compte que c'était très, très important au départ d'expliquer la définition qu'on met derrière le sens que nous, on y met. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de quiproquos qui viennent de ça. Alors, je m'explique. En fait, sur des forums, sur les réseaux sociaux notamment, tu peux parfois tomber sur les notions de HPI et HPE avec un sous-entendu derrière qui est comme une sorte de compétition ou un clivage qui sous-entendrait quelque part que être HPI, c'est être supérieur à HPE. Donc, on va le dire tout de suite. En tout cas, ici, ensemble, toutes les deux, cette posture, moi, ne m'intéresse pas du tout. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans mes livres, j'utilise uniquement le sigle HP, en supprimant la dernière lettre. Comme ça, il n'y a pas de débat. Voilà. En réalité, d'après mes recherches, il y a plein de formes d'intelligence différentes. Il y en a même 9, d'après le psychologue américain Howard Gardner. Sauf que certaines sont plus valorisées que d'autres, à l'école notamment et en France, alors qu'elles ont toutes leur utilité, offrant des talents particuliers. Donc, si je suis un peu plus précise, les intelligences en lien avec la compréhension verbale ou avec tout ce qui est logico-mathématique ou de repérage spatio-temporel sont extrêmement valorisées à l'école. Mais tout ce qui relève, par exemple, de l'intrapersonnel, de l'interpersonnel, du rapport à la nature sont peu valorisés, alors qu'en réalité, l'inter et l'intrapersonnel, tu t'en sers tout le temps, au travail, en interaction avec les gens. Donc, quand tu as une intelligence très développée en la matière, c'est vraiment une chance pour toi, j'ai envie de te dire. Donc, si on revient à ta question, plus précisément, en fait, le terme d'intelligence émotionnelle, il a été utilisé pour la première fois par John Mayer et Peter Salovey en 1990, puis après, il a été repris et popularisé par Daniel Goleman en 1995. Les compétences émotionnelles en tant que telles impliquent une bonne perception de ses propres émotions et aussi une capacité à les exprimer, et d'autant plus correctement pour faciliter les interactions avec autrui. Donc, ça suppose plusieurs compétences différentes. D'ailleurs, Fanny Marais, qui connaît bien le haut potentiel en général et cet aspect, m'a fait l'amitié d'écrire un regard croisé dans mon livre où elle aborde la question de cette intelligence émotionnelle. D'après mes recherches, cette intelligence-là dépend grandement de ce qu'on a vécu enfant, de comment on s'est senti accueilli, rassuré, légitime à exprimer sa sensibilité et ses émotions naturellement ou pas. En parallèle de ça, donc, on peut avoir aussi ce qu'on appelle un HPI, c'est-à-dire un haut potentiel intellectuel, où là, vraiment, on va aller stimuler ces compétences qui relèvent du mental. Du coup, on peut tout à fait être un profil HPI sans être HPE. On peut être aussi le contraire, ou on peut présenter les deux particularités. Mais de mon point de vue, chacune d'entre elles offre son lot de forces et de bénéfices sans qu'il y ait lieu à une hiérarchie ou une compétition. Moi, je crois plus à la complémentarité des forces parce que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice sociétal au final.
Hyper intéressant. Et du coup, on en a entendu vraiment énormément parler ces dernières années et j'ai parfois l'impression que certains parents cachent les turbulences de leurs enfants par, entre guillemets, je mets des guillemets, l'excuse du haut potentiel ou de l'hypersensibilité. Ouais. En mode, non mais il est différent, etc. Et en plus de ça, j'ai remarqué, alors je ne peux pas généraliser, je ne suis pas assez experte dans le domaine, mais j'ai remarqué qu'il y avait aussi beaucoup de parents qui mettent les turbulences de leurs enfants ou les crises, les colères sur le dos d'une hypersensibilité ou d'un haut potentiel. Et en fait, ces mêmes parents-là, des fois, tu te rends compte que s'ils poussent un peu le côté investigation, etc., tu te rends compte qu'en fait, il y a un TDAH qui est présent. Donc, c'est encore autre chose. Ouais. Du coup, qu'est-ce que tu penses un peu de ce débat-là, en fait, autour des enfants hyperactifs qui seraient du coup haut potentiel, qui seraient du coup pourvus d'une intelligence différente, qui justifierait leur comportement parfois gênant.
Oui, mais c'est vrai ce que tu dis, c'est qu'on a pu lire ces dernières années beaucoup d'articles de journaux ou entendre beaucoup de retours d'enseignants qui évoquaient cette forme d'excuse entre guillemets. En réalité, les enfants dont les parents sont réellement concernés par ces particularités mettent rarement en avant le haut potentiel ou l'hypersensibilité. C'est-à-dire, ce sont rarement des parents qui déboulent à l'école en disant « Oui, vous savez, mon enfant, il est HP, donc il faut l'excuser de tout. » Parce que quand ils mettent le doigt sur cette particularité, ils sont pas vraiment contents. Ils se disent pas « Génial, mon enfant est un génie. » Parce que comme les chiens ne font pas des chats, ils ont plutôt tendance à se dire « Oh là là, cette particularité chez mon enfant va impliquer un sentiment de décalage avec les autres qui va être difficile à vivre. » Ils ne sont pas contents de ça, ils sont plutôt inquiets. Voilà, donc, ils ont plutôt tendance à le cacher à l'école. Donc ça, c'est une réalité. Donc quand on voit arriver un parent qui crie haut et fort ce genre de choses, moi, je comprends qu'on ait certaines réticences. Voilà. Ou alors, c'est que derrière, il y a une systémique parentale qui est aussi à investiguer, si tu veux, et qui peut interpeller. Voilà. Par contre, ça reste quand même intéressant de se questionner sur ce type de profil. Si on revient, si tu veux, juste aux élèves qui sont au potentiel, en fait, il y a plein de profils différents de haut potentiel. Il y a une étude qui a été menée aux États-Unis et qui arrive même à la conclusion qu'il y a 6 types de profils d'élèves au potentiel. Donc, tu as celui qui va être brillant, qui est le surdoué type qu'on peut facilement imaginer avec cette mémoire fulgurante et qui va sauter des classes. Mais tu peux aussi avoir un profil qui va être plus autonome, qui est plutôt un investigateur dans l'âme, mais qui peut avoir un rapport plus difficile à l'autorité, parfois, mais qui reste dans les clous, si tu veux. Tu peux aussi avoir des profils féminins qui vont être très discrets, qui ne vont pas briller particulièrement. Elles sont dans la moyenne à l'école, parce qu'elles vont mettre à profit tout leur haut potentiel pour surtout observer les relations sociales et s'intégrer. C'est ça leur objectif premier. Voilà, pardon. Mais tu vas aussi avoir des profils qui, eux, sont décrocheurs. Et en fait, ce sont souvent des profils qui ont des troubles 10 ou un TDAH, mais qui, le haut potentiel et les troubles se compensent mutuellement. Et donc, du coup, au fond d'eux, ils sentent bien qu'ils en ont sous la pédale et qu'ils n'arrivent pas à aller au bout de leur potentiel. Ils sont très, très frustrés. Et là où c'est gênant pour ces enfants, c'est qu'ils finissent par développer une estime d'eux, une confiance en eux qui est mauvaise pour les mauvaises raisons. Voilà. Et après, tu as encore un autre profil qui va être le profil provocateur parce qu'il a ce TDAH qui prend le dessus sur le reste. Voilà. Pour moi, en fait, là où c'est intéressant pour un enseignant ou une enseignante d'explorer ce sujet, c'est que c'est des profils qui peuvent bousculés dans la classe, qui peuvent interpeller quand ils ne passent pas inaperçus. Et ça, ça peut être gênant pour l'enseignant qui doit, lui, s'occuper de la totalité d'une classe. Mais par contre, mieux comprendre ces différents profils, identifier qu'on en a un dans la classe et se rendre compte que si on a un profil avec une dominante Asperger ou avec un TDAH, donc, ou avec une hypersensibilité qui va, après la pause du midi, être déjà épuisé parce qu'il a tous ses sens qui sont hyper exacerbés et qu'en fait, il n'en peut plus de se contenir émotionnellement. Si tu identifies ça et que tu es capable de lui proposer de mettre un casque anti-bruit sur les oreilles et de lui proposer de faire une pause plutôt que de le forcer à rester assis sans bouger et à étudier la leçon alors qu'il n'est plus du tout en capacité de le faire, il va se détendre. Il va se reposer et en fait, 20 minutes plus tard, il peut revenir dans la classe en ayant lâché sa soupape. Et là, ça devient tranquille pour tout le monde. Tu vois, c'est en ce sens-là que ça peut être intéressant d'aller identifier cette particularité. On peut aussi mieux comprendre que l'ennui chez un profil au potentiel ou chez un profil TDAH pour qui la répétition ne fait pas sens. C'est-à-dire, soit ils ont compris tout de suite et du coup, ils ne comprennent pas pourquoi on va répéter encore et encore les choses. Soit ils ont en plus un problème dans la persévérance et du coup, une fois qu'ils ont fait deux fois une table de multiplication, ils ne comprennent pas pourquoi ils doivent faire les six autres parce qu'ils ne comprennent pas l'intérêt du sujet. Si tu apprends à identifier ces profils-là, tu peux proposer des exercices facilement qui vont les stimuler aussi sans qu'ils viennent perturber le reste de la classe, tu vois. Voilà, et à mon sens, si tu veux, c'est intéressant de se rendre compte de ça pour que le système de la classe soit bénéfique pour tout le monde. Parce qu'à la fin, si tu veux... Ouais, c'est juste que quand ils rentrent à la maison... Ces enfants-là, en fait, ils explosent à la maison. C'est pour ça que les parents sont démunis derrière, tu vois. C'est ça que je voulais dire.
Ouais, je comprends. Après, c'est pas évident parce que, bon, là, c'est dans un débat plus sociétal, mais on sait que le système éducatif est quand même plutôt en crise, qu'il y a de plus en plus d'élèves dans les classes. Et je pense que c'est quand même compliqué aujourd'hui pour un enseignant d'avoir les ressources nécessaires pour mettre en place des choses concrètement pour les enfants qui sont concernés par, ces sujets-là, parce que finalement, tu n'as pas le temps, tu n'as pas les ressources, les outils, les casques, les machins. Oui. Et quand tu as 30 élèves à t'occuper et que tu es toute seule et qu'ils ont 8 ans et qu'ils sont déjà de base difficilement gérables.
Oui.
Mais bon, après, là, c'est encore d'autres problématiques, mais... C'est hyper intéressant ce que tu dis et ça me fait penser que j'étais tombée sur un article. En fait, quand j'ai préparé notre épisode, j'ai un peu farfouillé dans les actualités ce qui se disait.
Ouais.
Et en fait, je suis tombée sur un article qui date d'il n'y a pas très longtemps qui parlait d'un lycée qui a ouvert dans le 14e arrondissement de Paris qui est dédié aux jeunes dotés d'un QI plus élevé, mais qui ont des difficultés.
Oui.
C'est-à-dire qu'ils présentent des... pas des échecs scolaires, mais ils font face à des difficultés à rester dans un cadre scolaire classique.
Oui.
Et apparemment, alors je ne sais pas s'ils venaient d'ouvrir ou si juste ils en parlaient parce que c'était un peu le côté effet de mode. Mais par contre, il y a d'autres établissements de ce type qui existent. Je pense que c'est des établissements privés où tu payes, voilà. C'est quoi ton avis sur ce sujet-là? Parce que moi, ça me questionne. J'attends ta réponse, mais moi, ce qui me questionne, c'est sur le côté... comment dire, séparatiste entre des gens normaux d'un côté et des gens qui pensent différemment. Est-ce que c'est pas quelque part problématique pour ces personnes-là de n'être que dans un entre-soi, tu vois, de n'être confronté qu'à des personnes qui pensent aussi vite qu'eux ou qui sont aussi créatifs qu'eux ou qui sont hypersensitifs comme eux?
Oui.
Est-ce que ça n'a pas un côté un peu élitiste et un côté à les faire se sentir quelque part supérieurs alors qu'ils ne le sont pas.
Ouais.
Et en même temps, peut-être que ça peut faciliter leur parcours scolaire. Quel est ton avis sur le sujet?
Et c'est sur ces mots que s'achève la première partie de cette série de 3 épisodes avec Sandrine Rouget sur le vaste sujet de la neuroatypie. Dans la seconde partie, il sera sujet de la capacité à soulever des montagnes malgré les différences, mais aussi du cas des entrepreneurs ou des athlètes de haut niveau. La question du lien entre la neuroatypie et les addictions. Sur ces belles paroles, je vous souhaite une très très belle journée.